C'est interdit de fumer ici.
Ah, ici aussi. Ils te vendent des clopes, tu peux pas les fumer, quoi.
C'est un monde qui va en couille.
Cannabis Circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors vous, les jeunes, vous allez faire passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis Circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
Et comme tous les lundis soirs, eh ben, c'est l'émission du cirque.
Cannabis Circus.
Voilà, tout à fait.
L'émission du Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais que vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07, par mail cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez visiter notre site internet www.cirque-lyon.fr ou nous contacter même par voie postale, c'est encore possible. Cirque Lyon, BP 93 043 69 605, Villeurbanne, Cedex. Et pour continuer un peu sur les actus du cirque, le cirque sera présent au festival reggae Gully Sound dans le Buget, dans l'Ain, à Arandas. Le samedi 23 juillet, dès l'ouverture du festival à 20h, festival qui se tient donc le samedi 23 juillet de 20h à 5h du matin. Voilà, dans les bois, dans la forêt du Buget, un contexte, un environnement magnifique comme tous les ans. Ce sera la troisième année à laquelle nous participons. Par contre, cette année, nous n'irons pas au Zion Garden Festival à Bagnols-sur-Cèze, faute de bénévoles en fait, disponibles à cette époque. Parce que ça dure quand même une semaine, le Zion Garden, donc il faut quand même être un petit groupe motivé pour aller tenir le stand pendant une semaine. Voilà. Et sinon, eh bien aujourd'hui, c'est la revue de presse hebdomadaire du Cirque Lyon. Une revue de presse, encore une fois, où on va parler beaucoup de cannabis. Mais pas
fait,
que.
Avec des brèves françaises, hein, un petit peu ce qui se passe autour de l'euro.
Une actu sportive ce soir, périsportive en tout cas. Effectivement, avec cet article de 20 minutes qui nous parle de la propagande de la scientologie aux abords des stades, pendant la Coupe d'Europe, là, l'euro en France. Donc on va parler un peu de ça, l'article de 20 minutes là, qui en parle. Toujours pour rester dans le sport, on parlera un petit peu de ces sportifs qui fument du cannabis ou qui veulent se mettre au business. Alors comme Floyd Landis, qui est un ancien coureur cycliste. Voilà. Et puis un joueur de foot américain aussi, Derek Morgan, qui a pris position pour le cannabis, qui lui-même revendique assez clairement l'utilisation. Et puis ben, on voit encore qu'aux États-Unis, ça bouge pas mal à ce sujet, on va en reparler. Donc voilà un peu pour la page sportive. On va parler un peu aussi de
la Colorado. De
la Mildeca, oui, qui voit ses crédits baisser.
Diminuer, tout à fait. On fera un truc avec Paradise Side qui essaye de nous expliquer comment fumer du cannabis de façon plus soft. Un ou deux articles sur le Colorado, un article de Belgique aussi sur l'hypocrisie dure d'une drogue douce. Voilà un petit peu l'ensemble de la revue de presse, des petits articles de fond, diverses petites choses. On va voir comment ça va se dérouler, comment on va être, comment on va discuter de tout ça.
Voilà, et on n'oubliera pas un petit article, encore une fois, d'une affaire de corruption, cette fois-ci au niveau de la justice, après l'Octis, on manquera pas d'en parler aussi, ça nous fait bien rire.
Oui, tout à fait. De toute manière, on sait très bien que dans ceux qui sont intéressés par la prohibition, il y a principalement les dealers qui joue là-dessus aussi. Voilà, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que tu disais. mais ça n'empêche pas que les dealers sont, ou en tout cas les grands contrebandiers de cannabis, sont les premiers à être contre la légalisation.
Ouais, et puis la police et la justice aussi.
C'est possible. Mais je pense qu'ils auraient ils ont bien assez de chats fouettés, ils peuvent lâcher celui-là. Allez, un petit peu de zik. donc c'était les crocodiles Lindebeu, les crocodiles Lindebeu, ou Lindebeu, Marijuana.
Voilà. Voilà, on s'excuse si on a écorché leur nom.
Voilà, c'est de l'ancien en plus, hein, c'est la première compile du cirque, c'est certains articles, certains titres qui sont un peu longs, qu'on met rarement. Donc voilà, du coup je suis allé les rechercher, je me suis dit que j'allais passer les longues.
Des morceaux inédits. Alors, donc, pour commencer, on va parler un peu de Scientologie qui vient faire sa propagande aux abords des stades pendant l'Euro.
Ils viennent donc... même faire chier les supporters étrangers.
Ah ben oui, ils viennent voir... Enfin, ils sont là pour tout le monde, hein, a priori.
Ah ouais, ils en ont dans toutes les langues. Hein.
Donc, voilà. Alors, c'est une asso, en fait, qui s'appelle Non à la drogue, oui à la vie.
Une association loi 1901 qui a l'air totalement indépendante, mais qui est totalement financée par la Scientologie, ce que d'ailleurs les militants reconnaissent.
Hein. Oui, en effet. Donc voilà, ils se postent proche des stades et puis ils distribuent des flyers en fait, notamment sur le cannabis en fait, la vraie vérité sur le cannabis, un truc comme ça. L'objectif étant de dénoncer les méfaits des drogues. Par contre, on n'a pas trop l'impression qu'ils parlent d'alcool ou de tabac.
Non, très bien.
Non, c'est pas ça. Hein, c'est...
Oui, l'alcool et le tabac, c'est bien connu, c'est pas des drogues.
C'est pas des drogues, voilà. Donc, ils en parlent pas.
C'est légal, donc c'est pas des drogues.
Voilà.
Hein, si ça s'arrêtait à ça, ce serait facile, hein, mais non. Non, non, la drogue et le tabac, la nicotine et l'alcool sont des drogues.
Voilà, donc voilà, ça s'appelle La vérité contre la drogue. Alors il y a aussi c'est un DVD qui s'appelle comme ça. Parce qu'ils ont aussi des DVD, ils sont pas que.
Ouais, il faudrait qu'on se le procure, ça doit valoir son pesant d'or. On va pouvoir rigoler un peu peut-être.
Ouais.
Bref, en tout cas, ça fait peur. Mais...
Bah, ça fait peur, et puis si vous êtes amateur de foot et que vous tombez sur eux, sachez donc que c'est bien la Scientologie, que c'est pas le ministère de la Santé ni la Mildeca qui informe sur le sujet. Voilà, on en a déjà un peu parlé hein, par le passé de cette organisation de lutte contre la drogue scientologue. Hein, d'ailleurs, on s'est aperçu à plusieurs reprises qu'un certain nombre de leurs messages ou de leurs communications n'étaient pas très éloignés de ce que pensent, par exemple, les Républicains sur la drogue ou de ce qu'on peut lire dans leurs arguments,
leur
propagande également. Et moi, j'ai même envie de dire que c'est finalement pas très éloigné non plus de ce que dit depuis très longtemps la Mildeca ou la Milt apparemment, quoi. Auparavant, même si là on n'a pas d'extrait.
Ouais, je pense que c'est non, ça va quand même beaucoup plus loin du côté des scientologues et de.
Bah, c'est très exagéré au niveau des méfaits des produits, mais bon.
De toute manière, la Mildeca on va passer à l'article suivant, on va cesser d'exister, hein, puisqu'on en parle au
temps passé là-dessus.
Ah, elle a baissé de 20% son budget en 4 ans quand même. Hein.
Oui, oui.
Bon, jamais les addictions ont été aussi grandes, hein, aussi bien celles de.
Jamais les, pardon
les addictions.
Les addictions, les addictions j'ai compris, les élections.
Ont été aussi grandes, aussi bien celles par rapport à l'alcool ou au tabac, que celles par rapport au cannabis, que celles par rapport à d'autres jeux, à d'autres choses comme le jeu, par exemple. Parce que, voilà. Mais en tout cas leur financement baisse, hein, le nombre de...
Pour 2016, ils vont avoir 2,7% de moins. Voilà, mais comme tu disais, en 4 ans, ça fait 20%. Ouais.
Voilà, ça baisse, quoi.
Voilà, ce qui est d'autant plus, hypocrite aussi, c'est que, bah, voilà, on a toujours ce discours, il faut arrêter la drogue, il faut arrêter de consommer, il faut... Puis en fait, il n'y a pas de moyens pour aider les gens, et on en enlève tous les ans un peu plus. Donc encore une fois, on se fout un peu de notre figure, hein, pour le dire poliment. Il y a quand même des organisations... qui lutte contre les addictions et qui dénonce hein, cette baisse. Dans un communiqué, l'ANPA, l'Association Nationale de Prévention en Alcoolologie et en des Addictions aussi, l'ANPA donc, estime que cette option budgétaire est révélatrice d'un manque de clairvoyance et d'ambition pour la santé publique, qui privilégie la gestion à court terme au détriment d'une politique globale qui permettrait de mobiliser l'ensemble des moyens pour une politique réellement efficace. Donc voilà un peu ce que déclare l'ANPA. Un peu plus loin dans l'article, on nous parle aussi de ce en quoi devraient constituer les missions, le travail de la MILDECA et de la lutte contre les addictions. Donc on parle de promotion de la santé, de soins, d'accompagnement de personnes en difficulté, d'encadrement de l'offre et de la publicité des produits addictifs. Au niveau fiscal, une politique fiscale cohérente aussi avec le niveau de risque, élaboration d'une politique globale de réduction des risques et des dommages permettant de lutter contre les trafics et l'économie souterraine. Ah 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 ! Alors ça on rigole quand même. Hein. Et on leur enlève du fric. Et puis, par ailleurs, on sait bien que police et peut-être même justice sont embarqués dans des affaires de corruption. Alors, avec beaucoup de regrets, parce que la mission de la MILDECA est précisément de développer justement cette politique transversale sans laquelle aucun objectif crédible ne peut être atteint. On a aussi le point de vue en fait, de la Fédération française d'addictologie, présidée par le professeur Amin Benyamina. Qui a pris connaissance du communiqué de presse de la MILDECA par l'intermédiaire de sa présidente Danielle Jourdain-Méninger. Une goutte d'eau, lit-on, qui fait déborder le vase lorsqu'on sait que la Fédération française d'addictologie critiquait déjà les choix politiques récents du gouvernement au profit des lobbies, notamment ceux de l'alcool, avec le détricotage de la loi Evin. Plus loin, on nous dit que forcément ça peut engendrer à plus ou moins long terme des problèmes futurs importants. La Fédération française d'addiction apporte quand même son soutien à la MILDECA pour qui les financements alloués aux recherches, aux actions de prévention et à leur évaluation pour qu'ils soient maintenus à la hauteur des enjeux de cette priorité de santé publique et l'ANPA donc de lancer un dernier avertissement. Ce n'est pas en réduisant drastiquement les moyens de la MILDECA que le gouvernement pourra s'enorgueillir d'une politique à la hauteur des besoins et de conclure que c'est aussi en demandant un courage politique que le courage politique prévale et non les petites économies de court terme porteuses de problèmes futurs plus importants. Voilà. Moi, j'ai envie de rajouter que ça fait quand même déjà un bon moment que la MILDECA ne joue plus le rôle qu'elle devrait jouer. Je crois que, j'en suis même certain, qu'elle joue plus ce rôle d'ailleurs depuis 2002, depuis 2003, depuis le départ de Nicole Maestrachi de la feu MILDT. Déjà, quand Chirac avait été réélu, on a tout de suite compris que la MILT, et puis après, quand ce fut Appert président sous Sarkozy, alors là, c'était encore pire.
Ouais, gel non plus, ça. Oui, gel puis Appert.
Voilà. Puis bon, maintenant, Jourdain-Méninger, bon, finalement, sous Hollande, c'est encore pareil, finalement,
c'est pas
voire
mieux,
pire.
C'est pas mieux, oui.
C'est pas mieux, donc bon. Voilà, répression, il n'y a que ça qui les intéresse. Le reste, ils sont sourds à toute proposition ou critique. Mais bon, est-ce que c'est bien surprenant? Malheureusement, non. Ah.
Bon, heureusement que ça bouge toujours aux États-Unis. Hein.
Oui, alors on va faire une petite parenthèse sportive.
Ouais, semi-sportive.
Semi-sportive, oui.
Sportive au business. Hein, il faut toujours
people,
voilà. Il faut toujours se reconvertir. Hein, on vous en a déjà parlé avec différents chanteurs et autres basketteurs qui s'étaient reconvertis dans la culture du chanvre.
Ouais, un basketteur de Portland, je me rappelle plus de son nom. Et puis Snoop Doggy Dogg, hein, le rappeur.
Tout à fait. Et donc là, c'est Floyd Landis, c'est ça.
Voilà, un coureur cycliste qui a fait le Tour de France à plusieurs reprises, qui a été même bien classé derrière Lance Armstrong à une certaine époque. Mais bon, comme il s'était dopé et qu'il l'avait reconnu, hein, il s'était dopé en 2001-2006, il avait été radié de tout son palmarès du Tour de France avait été complètement effacé. Alors Landis, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord créer une petite société à son nom, Floyd's of Leadville. Pourquoi faire? Pour commercialiser des produits au cannabis, mais thérapeutique. Voilà. Si j'ai bien compris.
On veut pas seulement parce que sa société vante aussi les bienfaits de
cannabis récréatif.
Bah
alors lui, il est un peu dans les deux, on dirait.
Bah il se positionne hein, là-bas à la vitesse à laquelle ça va aux États-Unis, ça va bientôt légaliser partout. Là, on en est à 6 hein, maintenant, ça fait erreur, donc ça avance. Hein. et qu'on est quasiment à la moitié des états au niveau du cannabis thérapeutique.
Ouais, ouais. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus alors, il s'exprime, dans cet article, hein, il s'exprime, il dit qu'il a utilisé pendant de nombreuses années un analgésique à base d'opioïdes pour traiter une douleur à la hanche. Et il dit quand même, avec le cannabis, il dit, voilà, je peux mieux gérer la douleur et avoir une meilleure qualité de vie. Voilà. Pour ce qui est de Floyd Landis, repris par l'équipe.
Et donc, il est dans le Colorado et on rappelle que le cannabis thérapeutique, la culture et la vente de cannabis en petite quantité sont légales dans le Colorado depuis 2014. Donc,
voilà. Cannabis récréatif là-bas. Thérapeutique aussi, mais récréatif aussi.
Aussi.
Ensuite, pour continuer sur un peu
les people,
ouais, alors cette fois-ci c'est un joueur de foot américain, donc pas le soccer, hein, mais le foot américain avec les gros mastodontes qui se rentrent dedans avec des casques et tout, hein, c'est de ce sport-là dont on parle. Voilà, donc Derek Morgan, monté à son tour au créneau pour exposer sa vision médicale sur le cannabis. Il dit comme ça que selon lui, donc, la NFL, qui est la fédération de foot américain, est responsable de la santé des joueurs et se doit de faire au moins quelques recherches et études à ce sujet. Le regard apporté par la Ligue aurait une large portée sur la société dans son ensemble. Beaucoup de personnes souffrent et beaucoup de personnes pourraient utiliser le cannabis dans le cadre d'un traitement médical. Voilà. Alors, il semblerait que maintenant aux États-Unis, la fédération de foot américain prenne au sérieux tout ça et rencontre elle-même des médecins de ligue et des proches collaborateurs d'autres sportifs, parce que dans l'article, on parle aussi d'un autre sportif qui s'appelle Eugene Monroe. Donc voilà, on parle de Monroe, de Derek Morgan.
Voilà, ils sont déjà plusieurs, quoi. C'est
oui, plusieurs joueurs.
Justement, c'est le deuxième là, donc. Monroe est intervenu pour Morgan est intervenu pour soutenir Monroe,
voilà, qui
Derek Morgan,
voilà. Alors une autre petite anecdote, c'est au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies qui a eu au mois d'avril. Il y avait un certain nombre de personnalités, beaucoup de personnalités qui avaient co-signé un appel enjoignant les Nations Unies à changer de politique, etc. Et parmi les signataires de cet appel, il y avait un autre joueur de foot américain beaucoup plus célèbre que cela, qui est un quarterback de l'équipe des Patriots de New England, voilà, pour ceux que ça intéresse, donc qui s'appelle... j'ai mangé son nom.
C'est pas grave.
Bon, donc voilà, il était co-signataire de cet appel et ça m'avait quand même surpris de voir son nom parmi les signataires, parmi les chefs, des anciens chefs d'État, notamment Vicente Fox, l'ancien président du Mexique. Et donc voilà, Tom Brady. Voilà, c'est son nom, Tom Brady.
Très bien. Donc voilà, on a au moins trois footballeurs américains qui revendiquent la légalisation des cannabis.
C'est quand même énorme, quoi. Imaginez, un grand footballeur ou un grand tennisman ou un grand sportif français le faire de même en France, on n'est pas prêt, on n'en est pas là encore. Hein.
C'est vrai qu'on a eu un grand tennisman, mais c'était du bout des lèvres quand même. Mais...
Ah non, lui il l'assumait carrément. Non.
Il a assumé quand même une
certaine il a même une de ses chansons dans nos compiles.
Et dans les grands footballeurs, il me semble qu'il y avait un Barthès.
Et Lama, Bernard Lama, oui.
Et Lama, voilà.
Oui, mais eux, ils l'ont jamais assumé, ils se sont fait choper.
Oui, ils ont eu du mal à l'assumer.
Mais voilà. Alors que là-bas, c'est possible de l'assumer. Et Tom Brady, en l'occurrence, qui est l'un des co-signataires, là, en l'occurrence, il joue toujours, lui, il n'est pas à la retraite. Bon,
voilà, donc, voilà, c'est tout. Juste avant la pause musicale, on va encore faire deux petites brèves. Quoi. Une brève, mais on en rappelle une dernière. On vous a parlé plusieurs fois récemment de la grande bévue et du cannabis rentré en France grâce à l'Octris. Donc, vous savez, c'était le truc qu'il y avait eu... où ils avaient chopé trois camionnettes dans le 16e arrondissement avec 7 tonnes de cannabis. Le chef de l'État s'était déplacé, etc. C'était un coup des douaniers, ça. Et en fait, ils ont pécho un indict un cousin de l'Octris. Voilà, donc, et ça fait quand même un pataquès parce qu'a priori, c'était pas tout clair, tout net, cette histoire-là. Et là, c'en est une autre qui n'a rien à voir avec les autres, avec celle-là.
Ouais, là, ça se passe entre Lyon et Grenoble. L'histoire d'un go fast en fait hein, qui remonte depuis l'Espagne. Un go fast et un camion aussi en fait avec 660 kilos de cannabis. Sauf que alors voilà c'est un convoi en fait 660 kilos de cannabis pardon et au milieu du convoi un individu au volant d'une Audi RS6. Qui s'appelle Mohamed Bessam. Alors lui, ils l'ont chopé. Il a été condamné déjà à 12 ans de prison, pardon. Et la cour d'appel a officiellement admis la présence dans le dossier d'instruction de plus de 188 procès-verbaux entachés de nullité dans l'affaire qui concerne cet individu. L'individu arrêté, donc qui a pris 12 ans lui-même, il avait quand même déclaré que il y avait 660 kilos qui remontaient et dans la pesée au moment, enfin dans les procès-verbaux, en fait, ils s'aperçoivent que il manque 60 kilos. Mm-hmm. Donc il a pas mal d'avocats hein, qui sont derrière lui, dont Bertrand Saint, le célèbre avocat du syndicat des avocats de France de Lyon là, mais il a aussi d'autres pointures, hein, Éric Dupont-Moretti, Philippe de Appio et Thomas Bidnick, considérés comme des célèbres chasseurs de nullité. Alors ils ont déjà essayé de plaider pour devant la chambre d'accusation pour le report du jugement en attendant de purger toutes les questions de procès-verbaux bidouillés tout ça. La chambre d'accusation de Grenoble avait rejeté leur pourvoi et c'était un peu ça les a énervés, ils s'étaient barrés du tribunal et là c'est remonté jusqu'en cassation si je comprends bien. Voilà. Où ça en est, mais visiblement il y a un micmac là dans la procédure, dans les PV, il manque 60 kilos de cannabis, visiblement il n'y en a qu'un qui s'est fait choper, le convoi on ne sait pas trop, enfin là dans l'article c'est pas très très précise, pas tellement bien précisé pardon, l'interpellation s'était passée au péage de Vorep dans l'Isère, enfin voilà, donc encore un cas un peu chelou là, voire carrément. Alors ça concerne plutôt la justice cette fois-ci, et a priori pas la police, et en tout cas pas l'Ocrtis, que l'article de Marianne.net n'oublie pas de préciser, n'oublie pas de stipuler justement. Une décision d'autant plus attendue par la Cour de cassation, hein, d'autant plus attendue qu'une véritable tempête s'est abattue sur l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants, engagé dans un bras de fer sans précédent avec les juges au sujet de l'un de ses meilleurs informateurs. Donc voilà, on va suivre ça de près dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc voilà, une nouvelle affaire de corruption, ça nous surprend pas. Hein. Malheureusement, on est habitué. Voilà, allez, un peu de musique et on revient tout de suite après pour parler un peu des ados du Colorado qui consommeraient moins de cannabis que la moyenne. Bah dites donc. À tout de suite.
Ça y est, ça y est. La panacée.
All over the world. Big up on our chest. Respect au maximum pour tous les jeunes qui fument de la sensimilla. Marijuana, toutes les qualités. La skunk, la taille, la indica. On the redeem, yes, we physically fit because we don't wanna crack and no cocaine. Oh, oh. All that me want is a pure slang thing. Yes, we don't wanna crack and no cocaine. All that me want is a good slang thing. Give me the sensei. La bonne. You know dance with Irie.
Sensimilia.
Yes, we feel Irie. Want it in a Paris, in a every country, yeah. Down in a Tokyo, yes, from New York City. All of the youth want the good sense, it's sense Emilia.
Oui, c'est ça dans mon esprit. Elle devrait être en vente dans toutes les pharmacies. Je veux la sensi, l'original sensi.
Ah bon, oui.
Elle devrait être en vente dans toutes les pharmacies.
Alors, donne-moi l'herbe, la panacée des nations.
Car c'est la plante de la sagesse et de la guérison.
Oui, donne-moi l'herbe, la panacée des nations.
C'est la plante de la sagesse et de la guérison.
Monsieur Ricky, je reviens à parler. Je revendique le droit de librement fumer mon spliff dans The Riz.
passe là haut du OCB. Partager un joint est un moment privilégié. Que ce soit du Black H ou de la Sensei. Dans tous les pays et tous les quartiers, c'est un calme décidément très apprécié. C'est pour ça qu'il est le temps de la dépénaliser.
Parce que l'herbe, c'est ça qui est dans mon esprit. 24 sur 7, j'ai brûlé la scène. Si je dis la weed, c'est ça qui est dans mon esprit. On devrait la trouver dans toutes les pharmacies.
Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer Sensemilia. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer Sensemilia.
Tu vas de Belleville jusqu'à Opéra, à Lyon, à Marseille, dans tous les endroits. Aux États-Unis, aussi au Ponja. Tout le monde aime bien brûler la bonne ganja.
Syndica, rappelez-vous de son nom. On a trouvé un plan d'herbe sur la tombe du roi Salomon. Cette plante apporte la sagesse et la méditation. Au nord et au sud, il y a des plantations. À l'est et à l'ouest, il y en a à profusion. La marijuana pousse sans limitation. La légaliser serait la meilleure solution.
C'est pour la Sensi
que nous militons. Alors,
yes, moi j'aimerais prendre un petit break, man, pour cool out les vibes et fumer un spliff avec les frères, you know.
Eh ouais, 24 sur 7, la bonne weed. Non, dis-leur ça, Ricky, man.
We don't wanna crack and no cocaine. All I may want is a good slang take.
C'est vrai.
We don't wanna crack and no cocaine. All I may want is a good slang take. Give me the tiny cells and the indica. No matter what chase and what color. Give me the sensei. Yes, we want the sensei. Yes, give me the sensei. Yes, we want the sensei. Sensei, 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 sensei.
So all weed, it a dip on me brain.
Yes, we run a muffin and we burn to champagne.
So all weed, it a dip on me brain.
It a fait pan 24-7.
Alors, donne-moi l'herbe, la panacée des nations.
C'est la plante de la sagesse et de la guérison.
Donne-moi l'herbe, la panacée des nations.
Car c'est la plante de la sagesse et de la guérison.
Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer Sensemilia. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer Sensemilia. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer de la bonne ganja. Parce qu'on aime, on a plaisir à fumer Sensemilia.
Sensemilia, 24 sur 7, j'aime bien brûler la ganja, 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 ganja.
Ramsès, je te conseille d'aller à la campagne avec les Rasta, fumer un gros chalice.
Le DJ, il s'était sauvé.
Yes, donc c'était Sai Sai, hein, donc la panacée.
Voilà, alors la Colorado. Panacée, je sais pas s'ils ont trouvé la panacée au Colorado, mais en tout cas, 2 ans après la légalisation dans l'état du Colorado, ils se mettent à faire un petit peu des études auprès des jeunes pour savoir si justement cette légalisation n'a pas fait augmenter la consommation des plus jeunes. Et visiblement, il semblerait pas.
Au contraire.
Voilà. Au contraire, ça aurait même un peu baissé. Ce qui, d'ailleurs, est pas très surprenant, hein, parce qu'un pays comme la Hollande, qui expérimente déjà une plus grande tolérance au niveau de l'accès au cannabis, avec une interdiction pour les mineurs,
hein, tout à fait,
a des taux de consommation parmi les jeunes en Europe, voire dans le monde, qui sont plutôt dans la moyenne basse. Alors que dans les pays où on réprime le plus, comme la France, par exemple, on est les champions d'Europe. Voilà. Après, il y a un autre pays où ils répriment pas mal, c'est la Suède, mais ils répriment peu la consommation. Donc voilà, c'est assez compliqué aussi dans le détail, si on se met à rentrer dans le détail des lois au niveau des pays. Mais bon, voilà. En tout cas, là, avec un système de légalisation clair, comme au Colorado, visiblement, il n'y a pas d'explosion de la consommation chez les jeunes, contrairement à ce que pensaient les prohibitionnistes.
Je dirais que
américain.
donc la Suède, juste pour en dire un mot quand même, c'est un des pays qui a peut-être les meilleurs résultats sur les chiffres, mais qui a aucune politique de santé sociale.
Très mauvaise au niveau du sida et tout ça. Ouais,
voilà, aucune politique de réduction des risques, tout à fait. Voilà, donc c'est désastreux et les épidémies sont galopantes.
Ouais, mais après, ils arrivent à juguler aussi ça, parce qu'ils ont un système social qui est plutôt assez égalitaire, ou qui est mieux redistributeur que chez nous, faut le dire. Du Nord, c'est pas une légende non plus. Donc ils jugulent quand même, ils arrivent à contrecarrer un peu, mais ils ont des soucis quand même.
Ça n'empêche pas qu'ils ont des gros soucis.
Exactement.
On reste dans le Colorado. J'ai deux articles sur le même sujet, donc les deux pour dire que la légalisation du cannabis ne rime pas avec hausse de consommation. Voilà, donc un article de Temps Réel Nouvelle Obs et l'autre dans lemonde.fr.
Alors,
pour dire nos sources, c'est des sources assez sûres et fiables.
Voilà, alors il y en a qui quand même contestent ce constat qui est fait aux États-Unis. Alors il y a quand même une association dans le Colorado qui s'appelle SMART. Mais ce qui est dingue, c'est que même cette association, ils vont pas contre la légalisation. Ils militent juste pour un meilleur encadrement du cannabis.
Donc, c'est qu'ils ont gagné. Mais de toute manière, c'est ça. Le débat maintenant, le débat à avoir, c'est comment on légalise. C'est le débat à avoir, c'est ça. C'est savoir si on fait du n'importe quoi, une légalisation avec une libéralisation à outrance, justement, la façon Colorado et encore pire. Non, c'est surtout le Nevada, c'est le pire, je crois, de tous les exemples de libéralisation.
D'accord.
Bien qu'ils sont revenus, après 2-3 accidents, ils ont dosé les cookies, ne peuvent pas être trop dosés non plus. Voilà, ils ont mis quelques réglementations qu'ils ont ajoutées, mais c'est quand même l'état où la légalisation est la plus totale, je dirais. Et voilà, et c'est vraiment, on a vu, c'est vraiment les startups entre guillemets ou des petites entreprises qui se sont lancées sur le marché. Et là, il va y en avoir une petite dizaine qui va tenir. Et je pense que c'est les mêmes qui vont après s'étendre dans les autres États.
Ouais, sans doute. Voilà. Enfin bon, d'où, pour l'instant.
Et d'où aussi, actuellement, il y en a d'autres qui se lancent, comme Landis, par exemple.
Voilà. Comme
Lloyd Landis.
Floyd Landis, cycliste, là.
Le cycliste dont on a parlé tout à l'heure. Ou d'autres, Booba, etc. etc., etc.
C'est... Booba Snoop Doggy Dogg.
Snoop Doggy Dogg, pardon. désolé.
Booba peut-être aussi.
Désolé, c'est moi.
Dans un temps plus lointain. Plutôt une bonne nouvelle. Bon, je pense qu'ils vont faire ces mesures assez régulièrement pendant plusieurs années parce que le lobbying prohibitionniste n'est quand même pas mort complètement et enterré aux États-Unis. Il y a quand même toujours des prohibitionnistes. Mais il semblerait que ceci soit plutôt supplanté par des ultra-régularistes, ou des gens qui sont vraiment pour réguler au maximum et contraindre au maximum l'accès aux produits, ou en tout cas mettre en place tout un tas de garanties. Bref, voilà. C'est plutôt ceux-là qu'on le vend en poupe aujourd'hui, plutôt que des prohibitionnistes purs et durs comme à l'ancienne. Voilà. Ensuite, on va s'intéresser à un article de Laurent Apple, maintenant, qui a publié quelque chose de très intéressant sur la réduction des risques liés à l'usage du cannabis sur le site internet de Paradise Seeds. Laurent Apple, qui est journaliste, réalisateur de films, activiste, proche de ASU, de Principe Actif, militant historique de la réduction des risques en France, qu'on a reçu à cette antenne il y a 2 mois et quelques, un peu après la marche mondiale du cannabis, qui était le 7 mai, donc on l'avait reçu le 9 mai, voilà, qui était venu nous raconter plein de choses très intéressantes. Et donc là, il a publié un petit article donc sur le site de Paradise Seeds, qui est un grainotier. Donc voilà, article très intéressant qui nous parle de la réduction des risques et de l'usage de drogue, qui a commencé à devenir un terme populaire dans les années 80, qui a débuté plutôt en relation avec l'usage d'opiacés, puis après pour s'étendre à la culture techno avec le testing dans les rêves et dans les chill-out. Concept de RDR très pragmatique, les drogues sont illégales certes, mais elles peuvent causer bien des dommages. Mais si vous décidiez d'en faire usage, autant les utiliser consciemment, avec une bonne connaissance du produit et des bons outils, afin d'éviter le risque autant que possible. Voilà. des pratiques qui sont par contre là fondées sur des études scientifiques qui ont un impact très positif sur les usagers de manière générale sur la santé publique. Et dans les 5 dernières années, cette approche est devenue progressivement une politique globale reconnue pour toutes les drogues, légales ou pas, incluant les 3 plus populaires, tabac, alcool, cannabis. Voilà. Quelles sont les alternatives à la combustion qui offrent des moyens plus sûrs de consommer ?
Tout à fait, c'est une très bonne question. Donc, y a le vaporisateur dont on parle souvent. Et il parle aussi, alors je ne sais pas exactement ce que c'est DABS à basse température.
Le DAB. On va le réinviter, Laurent, il viendra nous parler de ce que c'est le DAB.
Les DAB à basse température, cannabis pur, inhalé.
C'est une manière de consommer.
DABS à basse température. Donc il faut voir exactement ce que c'est. Et sinon, aussi en ingérant donc SpexCake, gélule, goutte ou spray. Donc on peut réduire tous les risques à la consommation de cannabis sous sa forme traditionnelle de joint. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça sur paradiseseed.com, un article de Laurent Apple. Et sinon, dans la réduction des risques, il reprend aussi ce qu'avait dit l'Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie. Donc sur la politique de réduction des risques sur le cannabis, il y avait 4 points, c'est ça ?
Oui, 4 points. Donc éviter de consommer plus d'une fois par semaine pour minimiser les risques de développer des problèmes de santé mentale ou une dépendance. Éviter de fumer comme mode d'administration, utiliser un vaporisateur plutôt que de fumer un bang ou un joint. Si vous fumez du cannabis, évitez d'inhaler profondément ou de garder la fumée afin de réduire les risques de problèmes respiratoires. Et ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machine après avoir consommé. Alors quand même, heureusement, il y a des petites remarques après, c'est quand même bien. C'est intéressant, hein, ces lignes directrices, mais elles ne sont pas parfaites. Il faudrait insister davantage sur le fait de ne pas mixer avec du tabac du cannabis, par exemple. Déjà, Dotzenberg, hein, l'homologue, disait ça au mois de février. En outre, le modèle d'utilisation de ne consommer qu'une seule fois par semaine n'est pas très réaliste pour un grand nombre d'usagers. En effet, cependant, cela constitue un bon point de départ. Je me contenterai d'aller à la dernière ligne. Je ne sais pas si tu as des choses à dire un peu avant.
Non, d'accord. Vas-y, je t'en prie. J'étais aussi là-dessus.
Voilà, donc juste pour dire qu'il y a quand même peu de gouvernements qui font vraiment la promotion de la réduction des risques. Le plus important étant qu'entre cannabinophiles, on s'informe soi-même et qu'on partage nos connaissances. Et donc dans son prochain article, il dit, voilà, je présentais plus précisément des techniques de RDR cannabis, comme par exemple le fumer pur. Voilà. On arrive au dernier article.
Bon, on va prendre deux petites secondes.
Deux petites secondes, si tu veux, mais du coup, on est pile dans les temps cette fois-ci. On parlera après la petite coupure musicale de ce qui se passe un peu en Belgique. Voilà. Avec Mathieu Van Hedde. À tout de suite.
Et on part avec Stop Kovacs, Just Ash. Yes, et bien on vient de s'écouter Stuff Kovacs, Just Ash.
Ouais, un peu de trans-Goa dans Cannabis Circus, je crois que ça nous est jamais arrivé. Comme quoi, voilà, tous les
et voilà, c'était pour dire s'exprimer. Que dans la petite musique d'en charge de chambre, le tout premier, ben voilà, c'était. Je crois qu'on les a fait quasiment tous. Là, on n'en a oublié aucun cette fois, ça faisait longtemps.
Ouais. Voilà. Et déjà à l'époque, c'était il y a au moins 20 ans, ce compil, il y avait déjà de la trans-Goa. Voilà, donc on va revenir à nos moutons. On va parler un peu de Belgique, parce que bah, on n'en parle pas très souvent.
Puis c'est un pays où ça bouge aussi, hein, il y a des discussions.
C'est un pays où ça bouge et où ça a bougé, où c'est revenu en arrière. Voilà, c'est...
Ouais, ça bouge au moins. Voilà. Pas toujours en linéaire, mais ça bouge. Alors, dans un sens, dans l'autre, au moins ça discute. Chez nous, ça discute pas, c'est enterré. Ils nous mettent un couvercle sur la tête et puis vous n'avez pas le droit d'en sortir. Il est interdit de dire que le cannabis c'est bon, point final à la ligne. Donc c'est la loi qui l'interdit, hein, interdit de dire que le cannabis c'est bon. Donc par exemple, voilà, le sujet il est assez vite réglé. Quoi. C'est assez complexe d'avoir une discussion objective avec de telles règles.
Je ne sais pas si en Belgique ils n'ont pas un truc comme ça non plus. Ils n'en parlent pas dans l'article. Mais...
Je ne pense pas, je ne crois pas. Je ne crois pas.
Ouais, ok. Après, ils ont aussi une loi qui n'est pas cohérente. Hein ?
Oui, tout à fait.
Comme nous, en fait. Hein. Enfin, pire que nous, non ? Enfin, la loi là-bas, elle n'est pas cohérente pour autre chose. Alors que là-bas, en fait, il faut savoir que la consommation en Belgique est tolérée. Par contre, vous n'avez pas le droit d'en avoir sur vous, ni d'en acheter.
Voilà. Ah, donc,
alors, si vous êtes en train de fumer, a priori, c'est que vous en avez.
Ah, mais, Mathieu Van Ed, c'est totalement un non-sens.
Alors, juste avant de continuer, ce Mathieu Van Ed, donc, c'est quelqu'un qui est diplômé de chimie industrielle. Il assume sa consommation de cannabis et il était candidat aux élections fédérales de 2014 pour le Parti Pirate. Et il défend l'utilisation du cannabis médical et se positionne contre la prohibition sous quelque forme que ce soit. Voilà, pour introduire un peu le personnage. Alors son article est très intéressant, c'est sur rtbf.be le 21 juin dernier qu'on pouvait le lire. C'est très intéressant, il nous fait un petit historique de la consommation, de l'interdiction du cannabis. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose.
Oui, tout à fait.
On
peut dire... Alors, bon, après, je suis assez critique parce que je trouve incomplet encore.
Ah ben oui, en une page et demie,
ça va être dur. Ça soit pas mal. Hein. Non, parce qu'il dit que le chanvre ou le cannabis a été utilisé en Asie il y a plus de 8000 ans. En décoration essentiellement. Ah, je suis assez surpris parce que je sais que dans certains textes, on en trouve des références, alors peut-être pas à 8000 ans, mais à 5000 ans, et surtout déjà du cannabis médical. C'est là-dessus, je le trouve un petit peu léger. Bon, après, il parle beaucoup du papyrus, quoi, du chanvre et du fibre qui est arrivé avec l'écriture et avec l'imprimerie, hein, puisque c'était un bon papier, beaucoup très très résistant, le papier de chambre.
Toujours le cas d'ailleurs.
C'est toujours le cas. Voilà. En plus, une plante très solide, parfaite pour tisser des cordes et des navires. Hein, donc, on en a parlé. Et donc, on en parle donc déjà en 1500 avant Jésus-Christ. Et puis bon, avec toutes ces qualités, avec d'ailleurs, quand on a des rois qui ont été des conquérants et qui ont voulu avoir des grandes masses, comment on dit, quand il y a beaucoup de bateaux.
Des grandes voiles ?
Non, oui, des grandes voiles, oui, parce qu'il fallait des voiles pour équiper tous les navires.
Du cordage ?
Toute la flotte.
Oui.
Donc les rois qui ont voulu avoir des grandes flottes ont lancé la production de chanvre à travers la France.
Bah, lancé, il existait déjà, je pense.
Oui, mais ça a été relancé à chaque fois. On le retrouve souvent quand on a beaucoup de tissus. D'ailleurs, là, il va y arriver dans son article. On va revenir à ce qu'il dit. En 33, quand il y a eu la Marijuana Tax Act.
En 37,
qui a été levé pendant la guerre de 45 pour qu'on puisse relancer, entre autres.
La culture du chanvre pour fournir l'effort de guerre militaire pour les États-Unis, oui, bien
tout
sûr.
Tout à fait, avec les toiles de parachute en particulier, voilà. Puisqu'elles étaient en toile de chanvre, tissu, on ne peut plus résistant.
Voilà, et donc malgré l'interdiction en 37, comme tu dis, Roosevelt, voilà, avait relancé la culture du chanvre pour participer à l'effort de guerre militaire, tout voilà. à fait.
Donc pour revenir à ce que dit Mathieu Van Ed, lui après il fait arriver les premières utilisations récréatives à 450 avant Jésus-Christ, avec Hérodote, donc un Hérodote. Grec qui parlait de fulmigation collective. Ensuite, on a eu d'autres petites choses avec Marco Polo qui parlait de religieux qui utilisaient du chanvre pour se rapprocher de Dieu. Ou alors des décoctions aussi au cannabis qu'il a donné à certains de ses marins d'ailleurs pour qu'ils dorment paisiblement la nuit. Voilà. Donc pour lui, ça bascule en 1378 et c'est l'émir Soudoum Seikouni qui interdit la culture du cannabis en Égypte. Première prohibition, a priori d'après lui. Et en 1484, c'est le pape Innocent VII qui déclare le cannabis.
8. T'as oublié une barre.
Ah, Innocent VIII, pardon. voilà, qui déclare le cannabis propre pour le sabbat de Satan. Et donc, à partir de là, le cannabis a aussi des attaques en Europe. Voilà, donc, 14e ou 15e siècle, première prohibition.
Qui d'ailleurs ne fonctionne pas en fait, hein, parce qu'ils ont tellement besoin du chanvre pour justement tout faire, hein, des cordages, des voiles, du papier, des habits, des lampes à huile, bref.
Voilà, donc tout, hein. Et là on revient aux États-Unis en 1794 avec George Washington, rappelez-vous la constitution américaine
écrite sur du papier de chanvre.
Sur du papier de chanvre. Voilà, et donc lui lance un truc « Make the most of the Indian hemp seed and show it everywhere », qui se traduirait par « Prenez le plus possible de graines de chanvre indien et semez-en partout ». Voilà, donc 17-18e, le chanvre avance bien. Et puis vers le début du 20e siècle, avec la prohibition de l'alcool, c'est la marijuana, c'est l'opium qui sont...
après la relégalisation de l'alcool, oui, on utilise la marijuana pour... Enfin, tous les mots, les crimes et tout sont mis sur le compte de la marijuana, où on accuse même les femmes blanches d'être violées par des noirs qui auraient fumé du cannabis, tatatitatata.
Avec, comme point d'orgue, 1937, voilà. La Marijuana Tax Act.
Et là aussi, il oublie beaucoup de choses. Hein. Il ne parle pas du banquier Andrew Mellon, de mèche avec Dupont de Nemours, et de l'amitié entre Hoover, directeur du FBI, et Anslinger, directeur du bureau des narcotiques, qui est vraiment celui qui est à l'origine de l'interdiction du cannabis aux États-Unis. Donc ça, bon, il n'en parle pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle quand même des sociétés pharmaceutiques, hein, qui rejoignent les lobbyistes. Alors les lobbyistes, là, il ne dit pas qui c'est, mais les lobbyistes du textile, du coton synthétique, enfin des fibres synthétiques, du coton, du pétrole aussi. Donc rejoignent les lobbyistes, ces lobbyistes, pour interdire purement et simplement l'utilisation du cannabis, même médical.
Oui, tout à fait.
Et c'est avec la Convention unique sur les stupéfiants en 61 que la plupart des pays donc, ont interdit la consommation, la production et la vente de cannabis. Alors laquelle Convention unique des stupéfiants a été portée par Anslinger aux Nations Unies après avoir fait interdire le cannabis partout aux États-Unis. Dans le cadre de la Convention unique de 61, il fera interdire le cannabis partout dans le monde. On ne le remercie pas. Voilà. Et bon, en Belgique alors ?
Voilà, bon, après, en Belgique c'est un petit peu pareil, je sais pas si tu veux en dire deux mots, on a peut-être encore quelques minutes.
Oui, encore quelques minutes, visiblement l'invité n'est pas arrivé, on peut déborder un petit peu. Y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps on va pas rentrer dans les détails. Comment prendre ça Alors, en fait, voilà, si c'est là, je voulais en venir là, je trouve que c'est quand même intéressant cette partie. On nous parle voilà, de 93, directive du directive générale du ministre de la Justice qui demande s'il n'y a pas lieu de faire la distinction entre les drogues et les comportements, vente, consommation, production, ça c'est intéressant. En 2003, deux lois, un arrêté royal et une directive ministérielle qui sont promulguées. Les majeurs qui ont moins de 3 grammes en leur possession pour un usage personnel ne risquent plus qu'une amende administrative, donc ça c'est en 2003. sans qu'un procès-verbal ne doit être nécessairement rédigé. Voilà. Cette loi, bien qu'étant une avancée majeure dans le cadre d'une régulation, est en grande partie annulée l'année d'après, en 2004, puisque jugée trop floue. Voilà. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à présent au juge de définir si la quantité possédée pour un usage, si la quantité possédée est pour un usage personnel ou non, et que la police doit systématiquement dresser un procès-verbal. Voilà. Donc, toujours aussi flou depuis 2005, finalement. Cultiver et consommer et acheter du cannabis sont des délais punissables, mais font néanmoins l'objet d'une faible priorité de la politique des poursuites. Voilà. Si et seulement si aucune circonstance aggravante n'est constatée. Par circonstance aggravante, on peut citer la quantité transportée au moment du constat, le lieu, ainsi que l'état de la personne. C'est vraiment... Ça semble être en tout cas du cas par cas. C'est ainsi que, dans les faits, la possession de moins de 3 grammes est à peu près tolérée, même si ce n'est pas officiel. De même, ne pensez pas, nous dit l'auteur, hein, avoir le droit de consommer, car même si très peu de poursuites sont réellement engagées contre les simples consommateurs, toujours sans circonstances aggravantes, le policier dresse un PV simplifié et l'envoie au juge d'instruction. Encore une fois, dans les faits, peu de juges entament réellement des poursuites, mais la loi leur permet de le faire. Aucun consommateur n'est donc à l'abri de poursuites. Bien entendu, la revente de cannabis est-elle totalement illégale, tout comme la détention par des mineurs. Voilà. Alors après, il fait plutôt une critique de cette loi et il dit que voilà, on a quand même, il y a quand même une politique de répression dans les textes qui est légale. Est-ce que cette répression est garante du contrôle? Bah non, forcément. Il nous parle de ces réseaux qui se créent et qui agissent en bande organisée et qui voilà, prennent de l'importance, l'équilibre et l'offre s'équilibrent, mais comme c'est interdit, finalement, l'offre étant contrariée, le prix augmente. Et donc, ça fait le jeu du trafic et des dealers. Voilà. Donc ça, c'est, je trouve, plutôt bien expliqué. C'est la prohibition elle-même hein, qui, finalement, ouvre la voie aux trafiquants.
Tout à fait. Et une dépénalisation ne sert à rien. Il faut une réelle légalisation contrôlée, régulée, supervisée, voilà, une légalisation, on l'appelle comme on veut, mais à partir du moment où c'est une légalisation, il y a une loi, il y a une législation dessus, voilà, et c'est contrôlé, et forcément, comme le tabac, comme l'alcool, c'est contrôlé, voilà. Il faut qu'il y ait une législation.
Voilà. Pour finir, très vite, bon, bah, il dit qu'il y a d'autres approches qui existent, c'est sûr. Alors, il nous parle des coffee shops, alors, c'est pas très loin de la Hollande. Pourquoi pas, on pourrait même imaginer une base de données inter-coffee shop qui permettrait de s'assurer que la dose légale n'est pas dépassée pour chaque personne dans tous les coffee shops, etc. On pourrait mettre en place de la prévention, des recherches sur le cannabis et ses dérivés, etc. etc. Puis pour terminer, il dit bah, si, visiblement, hein, si on n'y arrive pas et si on n'y croit pas, on peut même imaginer un coffee shop test afin de voir l'impact de ces mesures sur du moyen terme. Voilà, mais en tout cas sortir de la prohibition et mettre en place des alternatives parce que la prohibition ça ne marche pas et ça ne garantit pas le contrôle ni des gens ni des produits.
Voilà. Donc c'était un article donc de Mathieu Van Hed qui est sorti de la Belgique
De rtbf.be, voilà. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais signe?
Ça coche.
Eh ben, on peut pas finir avant parce que là, je peux pas faire deux choses à la fois. Et voilà, c'est rien de spécial, juste des anciens camarades de l'émission précédente qui avaient oublié leurs affaires. Voilà, donc c'est la fin de Cannabis Circus aujourd'hui, pour ce lundi, en tout cas, 27 juin 2016. Bah oui, il est 22h passé de 7 minutes. Bientôt, c'est Chasseur de Son. Ah, il arrive ventre à terre, je le vois. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cannabis Circus. Et sinon, rendez-vous sur notre site internet, sur la page Facebook du Cirque Lyon pour avoir toutes les informations du cirque et tout ça. Et tout ça. Voilà.
Allez, ciao,
merci à toutes, merci à tous. Bonne soirée. Maintenant, c'est Chasseur de Son. Au revoir.